La première valeur dont j'aimerais parler avec vous ce matin, et on n'aura pas fini aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite, c'est de réfléchir en profondeur. Cette première valeur, c'est l'intégrité. Cette valeur peut être exprimée par cette petite phrase que je pense que vous avez déjà entendue, parce que je l'ai employée à plus d'une reprise. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Le premier membre de la phrase, ça va, je pense. Dieu nous aime. Amen, point. Mais il n'y a pas de point. Il nous aime, il nous accueille comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Il y a quelques mois déjà, si pas quelques années, hein, pour les plus vieux d'entre nous, je vous avais parlé déjà d'Elmer Gantry. Alors Elmer Gantry, c'est le personnage principal d'un film des années 60, interprété par Burt Lancaster, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Et Elmer est un prédicateur de l'évangile itinérant, aux États-Unis, dans le film. Et lorsqu'il prêche, des centaines de personnes se convertissent. Alors sa réputation forcément ne cesse de grandir à travers tous les États-Unis, ce qui finit par pousser un journaliste à suivre Elmer dans ses déplacements. Et celui-ci remarque très vite qu'une fois les rencontres terminées, une fois que les séances, si je peux appeler ça comme ça, d'évangélisation sont finies, Elmer se rend au bistrot, se saoule, court les filles et gaspille tout son argent en jouant aux cartes. Et même si le journaliste dans le film n'est pas chrétien du tout, il est quand même un peu intrigué par cette sorte de schizophrénie. Et il finit par obtenir une interview avec Elmer et lui pose cette question. Croyez-vous ce que vous dites quand vous prêchez? Et après un temps de réflexion, Elmer lui répond, quand je prêche, oui. Le reste du temps. Donc on ne peut pas dire que notre homme est ou avait beaucoup changé malgré toutes les belles paroles qu'il dispensait aux autres. Et c'était déjà, ça va nous ramener à la Bible, c'était déjà la crainte de l'apôtre Paul. Moi donc je cours mais pas comme à l'aventure, je boxe mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul, il était tout à fait conscient de ça. Il avait bien compris que sa vie tout entière, pas seulement les temps où il enseignait la parole de Dieu, mais sa vie tout entière devait parler, être un témoignage de la transformation opérée en lui par le Saint-Esprit. Il faut donc redire avec force que c'est un des grands messages de l'Évangile. Et c'est une des grandes promesses de Dieu. Vous changerez. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot repentance, en fait, moi j'appelle la repentance l'antichambre de l'entrée de la relation avec Dieu. Le mot repentance en grec, métanoïa, signifie d'ailleurs littéralement changer de mentalité, changer d'intention. Et quant au mot conversion, qu'on emploie parfois, épistrophée en grec, il signifie se tourner vers Dieu, faire un demi-tour, se retourner dans la direction de Dieu, revenir vers Dieu. Ce qui veut dire que pour changer véritablement de vie, il faut changer tout court. Devenir, j'ai employé souvent cette formule, devenir la nouvelle version de soi-même. C'est au centre, entre autres, de l'enseignement de Paul. Si quelqu'un est en Christ, donc s'il est chrétien, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes donc appelés à changer totalement de logiciel. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné l'agent du changement, le Saint-Esprit. Alors la première question qu'il faut se poser, et je pense qu'elle n'est pas anodine, est-ce que nous voulons vraiment changer? Parce que Dieu viole personne. Donc la première question, c'est, il y a le projet de Dieu pour ma vie, c'est que je change, que je sois transformé par son esprit, mais on peut très bien décider de ne pas vouloir changer. On peut s'accrocher à des traits de caractère, à des comportements, pour différentes raisons, hein, qui viennent parfois même de loin, qui sont même parfois inconscients. Mais en tout cas, en cours de route, le Saint-Esprit nous révélera toujours ce qu'il faut changer dans nos vies. Si vous avez le désir de changer, vous êtes souvent confronté, je pense, à cette réalité qu'à un certain moment, plus ou moins souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore souvent très loin d'être ou d'être devenu ce que Dieu vous appelle à être. Cette petite douleur là qui vous pince le cœur récurrente quand nous ne sommes pas ou nous avons échoué ou nous ne parvenons pas à être ce que Dieu nous appelle à devenir. Et la bonne nouvelle, c'est que cette petite douleur, cette gêne intérieure, elle est produite justement par notre désir de changement. Donc si vous ressentez ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est que vous en avez quelque chose à faire. Vous ressentez rien, ça c'est plus problématique. En fait, mes amis, ce sentiment de déception n'est pas le problème. Cette petite gêne intérieure qui nous dit « je suis encore tellement loin de ce qu'il attend de moi », ce n'est pas ça le problème. Mais par contre, ça reflète un problème plus profond. À savoir mon échec à être la personne que Dieu avait à l'esprit déjà quand il m'a créé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce personnage, les plus âgés ou les plus anciens d'entre nous, hein, s'en souviennent sans doute. Popeye, vous vous rappelez? Tout le monde connaît Popeye? Oui, j'espère. Hein. Alors moi, il est une chose. Bon, il y a longtemps qu'on ne passe plus Popeye à la télévision, certains disent que ça vaut peut-être mieux, soit. Mais il est une chose, moi, ce dont je me suis rappelé au niveau de Popeye, en fait, c'est une petite phrase qu'il prononce chaque fois, et c'est souvent, hein, qu'il se sent frustré ou incapable ou inutile, qu'il ne parvient pas à être confronté, en tout cas, trouver une solution à la situation qu'il vit. Il finit par dire tout simplement « Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. » Alors bien sûr, Popeye n'était pas un gars très éduqué, il n'était pas conscient de sa réalité intérieure et encore moins conscient de parfois des troubles de son enfance. Il n'était qu'un simple marin, fumeur de pipe, mangeur d'épinards, amoureux d'olives. Et un peu menteur sur les bords, parce qu'il y a autant de fer dans les épinards que dans ma chaussure droite, hein, entre parenthèses, mais soit. Mais pendant des siècles, on a pu faire manger les épinards à des enfants en disant « tu deviendras fort comme Popeye ». Mais Popeye ne pouvait pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. « Je suis ce que je suis, mais moi, je distingue une tristesse profonde dans cette formule. Je suis ce que je suis. » Il y a un manque d'espérance dans cette expression. Parce que tout simplement, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour devenir ce que l'on n'est pas. C'est comme si Popeye nous disait « n'ayez pas trop d'espoir, n'attendez pas trop de choses de moi. Je ne suis ce que je suis ce que je suis. » Alors, à titre personnel, j'en ai connu des Popeye, j'en ai connu même beaucoup, j'en connais encore aujourd'hui, et j'en suis même un, moi, parfois. Les épinards en moins. Ce « je suis ce que je suis », c'est en fait le cri de désespoir de la race humaine. Vous avez déjà prononcé cette parole, et moi aussi. C'est simplement l'expression du combat qui fait rage entre la déception d'être encore ce que nous sommes et l'espérance de devenir ce que nous sommes appelés à être. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la vie sur cette terre se résume à attendre une vie qui vient d'ailleurs. Et en plus, la plupart des chrétiens n'attendent même plus cette vie ailleurs parce qu'ils sont tellement bien ici que ça leur convient très bien. Mais la bonne nouvelle que Jésus a prêchée pendant son passage sur cette terre n'a strictement rien à voir avec une sorte d'exigence morale minimale requise pour aller au paradis après la mort. Hein. Vraiment pas. La bonne nouvelle concerne la glorieuse rédemption de la vie humaine, le changement profond de l'être humain. Votre vie, ma vie, je pense qu'il est temps de se transformer ou de se laisser transformer afin que justement notre vie à chacun devienne ou soit une bonne nouvelle pour nous d'abord, assez égoïstement, et pour le monde. J'ai connu quelqu'un, et j'en ai connu beaucoup des comme ça, hein, et je vais expliquer pourquoi après. Ça ne vient pas de nulle part. J'ai connu quelqu'un qui passait son temps à juger les autres. Il ne ratait jamais un culte, c'est vrai, mais il ronchonnait sur tout. Il n'était forcément jamais d'accord avec rien. Sa langue maternelle était la complainte. Il se plaignait tout le temps. Et en pensant à cette personne, je me suis demandé si je m'étais jamais attendu à ce qu'elle change, en fait. Je veux le dire autrement, à un certain moment, je ne m'attendais plus à ce que cette personne change. Elle était comme ça, il fallait faire avec. Cette personne, à ma connaissance, était déjà comme ça étant jeune, et en vieillissant, ça ne s'est forcément pas arrangé. Sortez-vous de votre tête qu'on s'améliore tout seul en vieillissant. Hein. Ce n'est pas vrai. Hein. J'ai plutôt tendance, par rapport à moi et par rapport aux personnes plus âgées qui m'entourent, dans mon entourage direct, plutôt l'impression qu'on exhale surtout en vieillissant les pires côtés de sa personnalité, souvent. Donc cet homme, à ma connaissance, en seulement pris sur son historique personnel, il avait toujours été comme ça. Donc ça m'a donné des circonstances atténuantes pour me dire, moi je n'attends plus rien de lui, il changera jamais ce gars-là, c'est pas possible. Pourtant, il est anormal que nous n'ayons pas, à l'époque, que nous n'ayons pas organisé une réunion de prière d'urgence pour lui, et même peut-être pour une dizaine d'autres, au minimum. Hein. On aurait dû se réunir en disant, c'est pas normal, quoi, que ça, il change pas. Lui et d'autres, hein, c'est pas normal. On a un souci, parce que ce que le Christ attend, c'est qu'on change. Mais on n'a rien fait. Il est anormal que nous soyons habitués à cette situation comme si elle était normale, justement. En se disant, de toute façon, il ne changera jamais. Alors comprenez-moi bien, cette personne avait de bonnes connaissances bibliques, ça c'est vrai, priait certainement tous les jours, mais personne n'espérait qu'elle puisse progressivement devenir semblable à Jésus. Et comme nous ne nous y attendions pas non plus, à ce que cette personne devienne un peu comme Jésus, personne ne fut choqué que rien ne change. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est même pire que ça. À un certain moment, j'aurais été étonné que la personne change. Mes amis, la plupart d'entre nous veulent changer, veulent devenir toujours plus comme Jésus. Enfin, en tout cas, je le souhaite vraiment. Mais c'est un objectif de minute, hein, pragmatique. Est-ce que ça se passe? Est-ce que ça arrive? D'après un sondage Gallup, un institut de sondage américain, 9 Américains sur 10, je cite souvent des sondages américains parce qu'au niveau des églises et du christianisme, il n'y a qu'eux qui font des sondages en fait. Il n'y aurait pas ce genre de sondage dans d'autres pays, je pense. Donc d'après ce sondage Gallup, 9 Américains sur 10, disent prier quotidiennement. 9 sur 10, c'est pas mal, hein. C'est un sondage qui a une dizaine d'années. Et 84 millions, donc plus ou moins un tiers de la population américaine, disent avoir reconnu le Christ comme leur sauveur. Quand on lit ces stats, on se dit « Waouh !» C'est la même Amérique qui a élu Trump quand même. Hein, ça. Voilà. Mais comme le dit William Iverson, je vous le cite, « 500 grammes de viande devraient être affectés si on verse dessus 125 grammes de sel. Ben, » le goût change, hein, normalement, non? Si c'est ça le vrai christianisme, le sel de la terre, où sont les effets dont parle Jésus? Si le christianisme est la vérité, si les chrétiens sont là pour amener du sel, de la saveur à tout ce qui touche parce qu'ils sont habités par le Christ, alors le gars dit, mais alors montrez-moi où sont les effets dont Jésus parle. Montrez-moi ces gars, ces gens. Ils sont où ces hommes et ces femmes qui sont transformés? Ils sont où? Je pense qu'il faut revenir à cet état d'esprit et une personne à la fois, on est tous individuellement responsables de ça devant Dieu, il faut vraiment revenir à cette prise de conscience que pour Dieu en tout cas, ne pas changer, c'est inacceptable. Parce que cet état de choses, cet état de fait n'est pas la pensée de Dieu, n'est pas le plan de Dieu pour nous, pour sa communauté. Je vais vous citer maintenant une citation de C.S. Lewis, hein, vous savez, vous connaissez l'ancien prof de l'université d'Oxford, de langue ancienne. Voilà ce qu'il a dit. Comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des châteaux de sable dans la boue parce qu'il ne peut pas imaginer ce que cela signifie que de se voir offrir des vacances à la mer, nous sommes bien trop vite satisfaits. Il y a la mer devant, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, et les gosses y font des châteaux de sable. Lewis dit, notre problème fondamental en tant que chrétien, c'est que nous sommes bien trop vite satisfaits de notre état spirituel. Alors, et je vais venir là au contexte, hein, de ce que je suis en train de dire. La conséquence de cet état de choses, si c'est le cas, hein, je pense qu'en partie Lewis a raison, même si nous sommes tous différents. La conséquence directe de cet état de choses, c'est que nous sommes très vite satisfaits de notre vie, c'est que nous finissons parfois par changer, c'est vrai. Parce qu'on change, hein, croyez-moi, toujours. Mais dans ce cas-là, on change en pire. On ne s'en rend pas compte, hein, mais on change en pire. Je m'explique. Nous avons déjà parlé de tout ça à d'autres occasions, mais je veux faire allusion à ce que d'aucuns appellent la pseudo-transformation. En quoi ça consiste? Nous savons tous que nous avons été appelés hors du monde. C'est ce que Jésus dit dans sa prière à son Père avant d'être arrêté, mis à mort, etc. Il prie son Père pour ses disciples, les douze, et par extension pour nous. Et il précise bien qu'il les laisse, ses disciples, donc nous, dans le monde, mais que nous ne sommes plus du monde. Ça, nous avons tous bien compris, je pense. Mais si Jésus nous laisse dans le monde, c'est que pour que nous y fassions une différence. Que nous soyons un agent de changement dans ce monde. Pour ce faire et pour faire rapide, nous devons donc aimer plus, amener plus de joie et d'amour dans ce monde, plus de miséricorde, plus de compréhension, plus de réconciliation, plus de Dieu à travers nous. Dernier message, enfin, on en a discuté mercredi dans le groupe de maison, enfin, si c'est ici que ça se passait. On a reparlé du pardon, parce que c'est une problématique. Nous sommes appelés, c'est Paul qui le dit, à exercer un ministère de réconciliation. Moi, je suis supposé en tant que chrétien parler de l'offre de réconciliation à travers Jésus que Dieu offre à tous les hommes et à toutes les femmes sur cette planète. Je dois être un agent de réconciliation. Si j'en veux à quelqu'un à mort, j'ai un léger problème. Si je ne suis pas foutu de me réconcilier avec les gens autour de moi, qu'est-ce que je vais aller prêcher la réconciliation avec Dieu ? À un moment, il faut être logique, hein, d'accord ? Donc, plus d'amour, plus d'écoute, plus de compréhension, etc., etc., à travers nous. Si nous n'y arrivons pas, si nous n'en arrivons pas à vivre ça, nous allons inévitablement soit envoyer tout promener, ça c'est un grand classique, soit assurer le service minimum chrétien, jouer au culte de temps en temps, quand ça me prend, mais notre vie et celle des autres restera inchangée, rien ne bougera, soit nous allons rechercher des moyens de substitution afin de nous distinguer de ceux qui ne sont pas chrétien. On va changer, mais au contour. On va adopter d'autres modes d'expression, mais sans changer intérieurement. Il est vraiment important, je pense, parce que je crois que c'est un des gros problèmes de l'Église du XXIe siècle. Il est terriblement important de prendre conscience de ce processus insidieux, car dans ce contexte, le modèle est quasi inéluctable. Si nous ne sommes pas changés de l'intérieur, autrement dit de fond en comble, si nous ne nous transformons pas sous la direction de celui qui est en nous, nous serons tentés de trouver des méthodes extérieures afin de satisfaire notre besoin de nous sentir différents de ceux qui sont en dehors de la foi. Les églises, depuis des siècles, elles jouent à ça, vraiment. Et c'est souvent inconscient comme processus, mais le résultat est souvent celui-là. Si nous ne pouvons pas, je résume ça, si nous ne pouvons pas être transformés, nous opterons pour l'information et la conformité. Autrement dit, accumuler de la connaissance, dans le meilleur des cas, et se conformer aux us et coutumes de notre environnement religieux. Alors, il ne faut pas être très étonné de ça. Hein. Ça fonctionnait déjà comme ça au premier siècle du temps de Jésus. C'est à ça que Jésus a été confronté, en fait. James Dunn, un théologien britannique bien connu dans les milieux protestants, enfin tout pour ceux qui ont la chance de pouvoir lire en anglais, fait remarquer qu'une très grande partie des écrits rabbiniques du premier siècle, parce que les rabbins contemporains de Jésus écrivaient beaucoup, tous ces écrits portaient sur la circoncision, les lois alimentaires et le respect du sabbat. Alors c'est très intéressant et c'est surtout très étrange, car aucun de ces rabbins, si vous l'aviez eu face à face, vous lui auriez posé la question: mais d'après toi, qu'est-ce qui est le centre de la loi Moïse ? Il n'y en a aucun qui vous a répondu, le sabbat, les lèvres alimentaires. Ils n'auraient pas répondu ça. D'ailleurs, Jésus pose la question un jour à un scribe, un enseignement de la loi de Moïse. Il dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Et qu'est-ce qu'il répond ? Il savait très bien les rabbins, ce qui était au centre. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tous les rabbins savaient que c'était ça le centre. Qu'est-ce qui pompe l'air avec toutes ces histoires de rituels, de règles alimentaires ? On est dedans. On est dedans. Pourquoi mettre l'accent sur ces pratiques s'ils savaient, et ils le savaient, que le centre de la loi de Moïse, c'est ça ? La réponse à cette question implique ce qu'on pourrait appeler, donc, c'est de ça que je parle depuis 10 minutes, des marqueurs identitaires. Les groupes ont une tendance à être exclusifs, autrement dit à exclure, si vous préférez. Les gens du dedans veulent se séparer des gens du dehors. Et c'est pour cette raison qu'ils adoptent des marqueurs identitaires. Ça leur permet de savoir ce qui est du dedans et ce qui est du dehors. Alors, ça savoir de quoi je parle. Ces marqueurs sont souvent hautement visibles et donc perceptibles. Très superficielles quant aux pratiques qu'elles englobent, à savoir le vocabulaire, parfois le code vestimentaire, le style de personne, mais tout ça n'a qu'un objectif, distinguer ceux qui font partie du groupe de ceux qui n'en font pas partie. C'est ça l'objectif. Et on retrouve ces marqueurs dans quasi, je dis bien quasi, tous les groupes sociaux, donc y compris les églises. Mais pas seulement. Hein. Bon, j'ai pensé à certains exemples bateaux. Hein. Dans les années 60, un hippie, ça ressemblait à ça, marqueur identitaire. Pas besoin de rentrer en dialogue, hein. Vous voyez un hippie, vous savez que c'est un hippie. Pourquoi ? Marqueur identitaire. Et eux, moi je suis un hippie parce que je fonctionne comme ça, je m'habille comme ça. J'envoie ce message-là, cette image-là, ben je sais que tous ceux qui ne sont pas comme ça, ils ne sont pas de mon groupe. C'est ça un marqueur identitaire. Alors, comme vous savez que je suis un ancien musicien, j'en ai pris deux, toujours dans les années 60. Ça c'est plus pointu. En Angleterre, spécifiquement, les Mots. Dans les années 60, tous les ans à Brighton, ils se coltinaient sur la plage, ils se battaient, il y avait des milliers de Mots qui arrivaient, et en face, il y avait des roquets en blouson de cuir, et ils se coltinaient. Voilà. Mais quand vous voyez les Mots, ben, même chose. Mais les fringues, c'est important. Hein. Longue redingote, style parka, là, ils sont dedans, donc vous ne voyez pas. Costume deux pièces, à revers droit. Vespa, ils roulaient en Vespa, eux, avec beaucoup de rétroviseurs, c'était mieux. Et ils écoutaient les Who. Pour ceux qui connaissent, un groupe de rock bien connu des années 60 et même après. Les rockers, ben, eux, c'était les cheveux gominés, blouson de cuir perfecto, jeans et gros cylindrés. Mais tout ça, ça repose sur un truc. Nous savons qui nous sommes et les autres ne sont pas nous. Il y a une cassure. Le gars qui sort sa bouteille de lait le matin, c'est clair qu'il voit ça dans la rue, il croit qu'il va lui parler ou il ne va pas parler. Mais tout le monde s'en fout parce que moi je suis dans mon monde et eux ils sont dans le leur. Est-ce que c'est vraiment ça l'évangile ? Moi je ne pense pas. Même si de vrais chrétiens peuvent se promener en perfecto. Hein. Faites attention, hein. Il y a parfois des... Donc les fermiers, les paysans, les politiciens, les rockstars ont tous leur propre façon de se distinguer de ceux qui ne font pas partie de leur confrérie. Très peu de politiques qui sont en gilet jaune pour l'instant. Mais on est reparti dans les marqueurs identitaires. Donc avec ça à l'esprit, les raisons de l'importance accordée à la circoncision, aux lois alimentaires ou à la stricte observance du sabbat deviennent parfaitement claires. On comprend pourquoi ils fonctionnaient comme ça. C'étaient les marqueurs identitaires juifs de l'époque. Très visibles, relativement superficielles dans leur pratique, mais permettant aux gens de distinguer qui faisait partie de la famille de Dieu et qui n'en faisait pas partie. Alors vous l'aurez, j'espère, compris. Le pire dans ce type de fonctionnement, c'est que les gens de l'intérieur du groupe deviennent des instruments de jugement envers ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Pourquoi vous croyez que les chrétiens ne partagent plus leur foi ? Ils sont dedans, c'est bien, tant mieux. Ceux de l'extérieur, ben ils sont de l'extérieur. Voilà. Donc ces personnes constituent donc à ce moment-là, et c'est très important de comprendre ça, nous pouvons potentiellement nous considérer comme une sorte de filtre à l'entrée du royaume de Dieu. On filtre. Alors ne soyez pas trop surpris de ça non plus, parce que Jésus, enfin rappelez-vous, qu'est-ce qu'il disait aux défenseurs, aux fameux défenseurs des marqueurs identitaires de son époque, vous rappelez ? Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Ça, c'est important. Vous n'y entrez pas vous-même. Hein. Vos marqueurs identitaires ne vous feront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Hein. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Jésus avait bien perçu le danger de tout ça. Empêcher les gens d'entrer dans la famille de Dieu en les faisant passer par toute une série de filtres identitaires. Si je veux devenir un rocker, tu commences par te faire pousser les cheveux ou te mettre de la gomina, tu achètes ton perfecto, tu achètes un jeans troué, tu achètes des Santiago, tu achètes ta grosse bécane et après on commence à discuter. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne rentres pas. Religieusement parlant, dans les églises, c'est kiff-kiff. On fonctionne la plupart du temps comme ça aussi. Ce qui est grave, c'est que la prétention, et c'était valable pour les juifs du 1er siècle, pas tous, hein, mais la grande majorité, la prétention de ces personnes qui fonctionnent d'après ce modèle est de dire « Regardez simplement les gens, visuellement, et vous saurez qui est une brebis et qui est une chèvre. » À la séparation des bons, les brebis, d'avaient les mauvais, les chèvres. Moi, je me rappelle une amie catholique, ça remonte, hein. La première fois qu'elle a vu Guy Gilbert, rappelez, vous connaissez Guy Gilbert, il était venu dans la région pour apporter une série de messages, je ne sais plus dans quelle paroisse. La plupart des catholiques ont été choqués. Pourquoi? Il s'est terminé en perfecto, en disant merde, bordel, chier, et oh, oh, ils étaient tous, voilà. Ils n'étaient pas dans le marqueur identique, ils étaient perdus. Où est sa robe et son étole? Et il n'y avait pas. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est bien de dire chier, bordel, merde, c'est pas ça que je dis. Mais ils ne correspondaient pas au modèle. Du coup, on sait pas un bon, donc on se ferme. C'est ça la pseudo-transformation. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'ils ont été transformés parce qu'ils vivent selon ces marqueurs identitaires. Alors, je vais quand même, pour terminer aujourd'hui, pour ne pas être trop long, je rappellerai quand même que pour l'anecdote, s'il y a un truc que vous devez retenir aujourd'hui, c'est bien ça. Mais ce n'est pas anecdotique, mais pour l'anecdote. Je vous rappelle quand même que Jésus, selon ce modèle, était aussi une chèvre et ne faisait pas partie du royaume de Dieu pour la grande majorité de ses contemporains. Ils sont passés à côté, pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient aucun marqueur identitaire et ne jugeaient personne sur l'obéissance stricte à ces marqueurs. Il n'avait rien à foutre, lui. Mais pour tous les juifs religieux de l'époque de Jésus, ils ne faisaient pas partie du royaume de Dieu. Jésus ne focalisait pas son attention sur ces marqueurs, sur les contours extérieurs d'une pseudo-transformation, mais sur le cœur du message de Dieu pour l'homme. C'est toujours là-dessus qu'il a mis l'emphase. Et c'est pour ça qu'il passait du temps avec les putes. Et c'est pour... Excusez-moi, les prostituées. Si Gilbert sort de ce corps. C'est la réalité sociale est la main d'une pute ou prostituée. Péripapéticienne. Hein? C'est pour ça qu'il passait du temps avec des gens avec qui personne ne passait du temps. Parce qu'il était dans le monde pour y apporter quelque chose, pour transmettre un message, pour vivre quelque chose, montrer quelque chose, montrer qui était vraiment Dieu. C'était certainement pas le Dieu des Juifs religieux du premier siècle. Alors, nous verrons la semaine prochaine à quoi ressemble la vie spirituelle lorsqu'elle est vécue et définie par son véritable sens. Afin que nous puissions vraiment comprendre en quoi consiste la véritable intégrité. Parce que moi, je connais plein de gens qui se pensent intègres, mais en tout cas, c'est pas l'intégrité comme le conçoit la Bible ou comme le concevait notre Seigneur Jésus. Amen.